Bonsoir. Merci d'être venu pour cette deuxième partie de soirée, puisqu'on a eu une présentation tout à l'heure. Donc, c'est une soirée consacrée à l'eau et la santé. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Legube, qui est un vieux complice de la maison. Alors, vieux, mais complice. En tout cas, qui est très sollicité ces temps-ci, évidemment, parce qu'on a choisi une thématique qui concerne l'eau. Vous savez qu'il y a une forte tradition en ce qui concerne la recherche sur l'eau à Poitiers depuis fort longtemps. Les gens connaissent bien ceux qui t'ont précédé, Marcel Doré en particulier. Et donc, tu as pris la suite il y a quelques dizaines d'années déjà, 10 ans, 20, 15 ans peut-être. Et donc, oui, et là aussi, le temps passe vite, hein. Et donc, Bernard a mené un laboratoire alors qu'il y a eu des acronymes qui ont évolué dans le temps. Ça a été LCE, LCME, SME, parce que la microbiologie s'est rapprochée. Alors maintenant, c'est l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Et donc, il est directeur de l'ENSIP, donc qui est une école d'ingénieurs qui est rattachée à l'université de Poitiers. C'est l'école, c'est la seule, oui, puisque l'autre n'est pas rattachée à l'université de Poitiers. Donc, il nous fait le plaisir, il nous a fait aussi le plaisir de nous accompagner dans la préparation de toute la manifestation de tout le forum sur l'eau, puisqu'il a participé au conseil scientifique, et quasiment c'est lui qui a suggéré son intervention de ce soir. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est lui qui a choisi ce titre provocateur, qui est un peu énigmatique pour certains, et qui résulte, il nous l'a rappelé tout à l'heure dans une discussion qu'on a eue en aparté, d'une émission de télévision. Et donc, s'inspirant de ce titre-là, il va nous dire si on peut boire de l'eau sans craindre, de l'eau au robinet, sans craindre d'ingérer des poisons. Alors tu remarqueras aussi, et c'est une première à l'espace Mendès France, que tu as de l'eau du robinet avec l'eau du Grand Poitiers. Alors que, et on a décidé en réunion en début de semaine qu'on allait bannir les bouteilles d'eau et que c'était une grande décision. Je te laisse la parole et encore une fois, merci pour ta participation très active, puisque tu nous as dit que tu revenais encore demain pour une autre présentation dans le cadre de la Fête de la Science.
Oui, c'est
Voilà.
ça. 10 mots.
Merci beaucoup.
Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci d'être présents ici. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Donc, du poison dans l'eau du robinet, c'est un titre que j'ai choisi, qui est bien sûr provocateur, hein, comme je l'ai déjà dit à la presse, qui m'a un petit peu interrogé ce matin sur ce sujet. Comme le disait Yves, tout simplement parce qu'il y a quelques mois, peut-être un peu plus maintenant, une année, on a vu une émission en prime time sur FR3, sur France 3. Qui était intitulé L'eau du robinet, ce poison. Mais qui n'était pas une émission faite pour dédramatiser le sujet. C'était plutôt pour comment dire, exacerber la peur ou les peurs des consommateurs. Et comme j'avais trouvé, pas seulement moi, mais d'autres collègues français, parisiens notamment, que cette émission était un petit peu malhonnête, on était intervenu dans le vide. Pour faire part de notre mécontentement. Et puis, en fait, j'ai repris ça parce que je me suis dit, bien sûr, il y a un point d'interrogation, hein, comme vous le voyez. Mais peut-être aussi que, quand on parle d'eau du robinet, bien évidemment, je vous dirais que ce n'est pas du poison. Mais quand on parle de l'eau de boisson, en règle générale, dans le monde, vous avez eu des conférences déjà, débats hier soir, ou vous en aurez peut-être à l'occasion des films qui vont être projetés samedi. Notamment, eh bien, quand on voit certaines populations aujourd'hui dans le monde, on peut dire quand même que dans certaines eaux de boisson, il y a vraiment des poisons, pas seulement des poissons. Et ce que l'objectif de ma conférence est en fait d'essayer de vous amener vers l'idée que l'eau, c'est quelque chose de très complexe, tout compte fait, l'eau du robinet en particulier, mais je veux dire l'eau dans toutes ses formes et dans toutes ses ressources également. Et puis, vous amener vers un débat qui, j'espère, sera enrichissant et sera varié à la fin de la conférence. Alors, juste quand même, c'est simple l'eau, hein, CH2O, vous savez, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, on a de l'eau sur la Terre depuis 3,5 milliards d'années, quand même. Mais il a fallu attendre, mais c'est normal, 1783 pour que Antoine Laurent Lavoisier, avec son ami Laplace, découvre que l'eau n'était pas un corps simple, comme on le croyait depuis des siècles, mais une molécule composée, comme vous le savez, d'atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors, en fait, à l'époque, Lavoisier n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui qui permet de regarder une molécule quasiment, presque jusqu'au fond des yeux, si j'ose dire, et de voir les atomes et les liaisons. Il était obligé de refaire lui-même de l'eau. Donc, en fait, il avait mélangé, en 1783, dans l'Académie des sciences, deux volumes de gaz qu'on appelait inflammables à l'époque, qui avaient été découverts quelques décennies avant, qui était l'hydrogène, avec un volume de gaz qu'on appelait vital, qui était le dioxygène, ça sous une cloche, en faisant la combustion de ces gaz, il est arrivé à reconstituer l'eau. Et c'est comme ça qu'il a démontré, tout compte fait, que l'eau était un corps composé simplement d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Alors depuis, on a fait beaucoup de progrès. On sait qu'il n'y a pas que de l'hydrogène proton et de l'oxygène 16, mais que dans la molécule d'eau, on a aussi de l'oxygène 17, de l'oxygène 18, des isotopes. On a également du deutérium, et que en fait c'est un savant mélange de tous ces combinaisons d'isotopes qui fait la molécule d'eau aujourd'hui. On sait aussi que la molécule d'eau présente par ses atomes d'hydrogène et par son atome d'oxygène la possibilité ici de faire ce qu'on appelle des liaisons hydrogène, c'est-à-dire de relier les molécules d'eau les unes aux autres. Et ces liaisons, si vous voulez, dépendent de la température du milieu. Alors, lorsque la température est, on va dire, normale, ambiante, une espèce de cluster de molécules qui se forment et se déforment en permanence pour arriver à ce liquide qu'on connaît et qui s'écoule parfaitement. Évidemment, lorsque la température est plus élevée, on arrive à un état gazeux avec une décomposition, une déstructuration des clusters d'eau. Et puis, si la température se refroidit, vous savez, c'est la glace. C'est-à-dire que ces liaisons entre molécules sont suffisamment rigides, pour constituer un solide qui, par ailleurs, est plus léger que l'eau, comme vous le savez, parce que la glace flotte, hein, sa densité est de 0,9. Et bien parce qu'on a quelques trous, quelques poches sans molécules à l'intérieur de l'édifice qui font que la glace flotte. On pourra revenir un petit peu sur cet aspect, si vous voulez. Je me suis amusé justement alors, vous savez, je ne veux pas faire trop de science quand même, mais j'en ferai un peu de temps en temps. On peut s'amuser à calculer combien on a de molécules d'eau dans une goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'est à peu près 50 mg, on va dire, autour d'eux. Alors, j'ai fait le calcul, il faut que je reprenne le chiffre, que je regarde, parce que sinon, je vais me faire une erreur. Il y a 1672 milliards de milliards de molécules dans une goutte. Alors, si on reporte ça au globe terrestre, où on a 1390 millions de kilomètres cubes d'eau, hein, c'est un chiffre qui est connu, on va dire, et ben on s'aperçoit qu'on a en nombre de molécules sur la Terre le nombre d'Avogadro au carré. C'est bizarre, c'est comme ça, c'est le hasard. Le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23, c'est-à-dire 10 avec 1, enfin c'est 602 avec 23 zéros derrière. Et bien quand on fait le calcul du nombre de molécules d'eau qu'on a sur la Terre, et bien on a quelque chose comme 10 puissance 47, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro au carré. Ça représente un chiffre énorme, mais tout compte fait, à l'échelle de l'univers, c'est pas si énorme que ça. Donc je dérive un peu ici avec cette petite histoire de l'eau. Je voudrais quand même revenir à mon sujet, et notamment, si je ne me trompe pas dans le sens, voilà, vous parler de l'eau du robinet. Mais avant de parler de l'eau du robinet, je voudrais qu'on essaie de distinguer, en fait, dans l'eau, ce qui est transporté par les eaux, d'ailleurs tout ce qu'on appelle les matières en suspension, les colloïdes, et tout ce qui est dissous dans les eaux. Et on va voir, en fait, qu'il y a tellement de choses qu'on a des milliers de substances dans les eaux, ce qui rend le milieu très complexe. Alors pourquoi l'eau a cette capacité? Ben, d'abord, l'eau est un liquide qui s'écoule, qui a une certaine viscosité, et les particules qui sont à l'intérieur de cette eau n'ont pas toujours le temps de déposer et sont donc entraînées par l'eau. On verra, notamment, c'est le cas des bactéries ou c'est le cas des protozoaires. Et puis l'eau a aussi une autre propriété, c'est un solvant universel, un très très grand solvant, et que tout ce que l'eau peut rencontrer, eh ben, l'eau va le dissoudre, plus ou moins fortement, suivant les espèces bien sûr, mais c'est pour ça que dans l'eau on va trouver plein de choses. Donc je vais essayer quand même de vous faire un petit inventaire des dangers potentiels qu'on a dans ce liquide, avant de voir ce qu'on en fait au niveau de la potabilité. Pardon. Alors, commencer par les matières en suspension et les colloïdes. Alors, évidemment, vous voyez là, j'ai choisi quelque chose de très chargé, on va dire une eau boueuse, c'est l'estuaire de la Gironde. Et tout ce que vous voyez, cette boue que vous voyez dans l'eau et qu'on peut distinguer également un peu sur les bordures, parce que ça dépose quand même, ce sont des colloïdes et des matières en suspension qui, a priori, ne seraient pas trop dangereuses, sauf que ces matières vont absorber des polluants, vont servir de milieu de culture aux micro-organismes, aux bactéries. Et bien évidemment, ces matières, c'est les premières qu'on a cherché à éliminer pour faire de l'eau potable, parce qu'on ne pouvait pas distribuer une eau aussi turbide. Et on va en parler tout à l'heure, quand vous voyez sur votre facture d'eau, sur l'analyse, pardon, qui est jointe à la facture d'eau, turbidité, turbidité s'exprime un peu la teneur en matière en suspension et colloïde. Juste une petite parenthèse, de temps en temps, je ferai une petite parenthèse scientifique, parce que j'aime bien la faire à mes étudiants. Vous voyez cette photo, par exemple, je reste toujours sur les colloïdes et sur l'estuaire de la Gironde. Malheureusement, on ne voit pas ce qu'il y a plus en amont, mais si on avait une vue un petit peu, mais je l'ai pas trouvé, si on avait une vue un petit peu plus haute, on verrait que dans le fleuve en amont, l'eau est beaucoup plus limpide, peut-être pas aussi limpide que l'eau de l'océan que vous voyez ici, mais beaucoup plus limpide. Et pourquoi cette eau devient aussi chargée dans l'estuaire? Notamment, et s'éclaircit assez rapidement quand elle arrive dans l'océan. Et bien, tout simplement parce que ces colloïdes, en fait, initialement, dans l'eau en amont de la rivière, sont très très petits. Très très petits, si bien qu'ils ne se voient pas d'une manière individuelle. On voit bien un léger trouble dans l'eau. Une eau de rivière n'est jamais aussi limpide qu'une eau de mer, enfin, sauf quand l'eau de mer est vraiment bien brassée, je veux dire, mais l'eau de mer est calme. Et ces colloïdes, donc, sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas décanter. Donc ils sont transportés très facilement dans l'eau. Ils ne peuvent pas décanter parce que l'eau a une viscosité qui est trop importante pour qu'ils décantent comme ça pourrait être possible dans l'air, par exemple. Mais au fur et à mesure que la salinité augmente dans l'estuaire, évidemment, hein, par le flux de la marée, la salinité de l'eau augmente, cette propriété conduit à une possibilité d'agglomération de ces colloïdes. C'est-à-dire qu'ils se regroupent, ils se grossissent, ils deviennent évidemment visibles, hein, ce qu'on voit très bien ici. Ils peuvent déposer tellement ils deviennent lourds, d'où la formation de sédiments et l'élargissement de l'estuaire. Mais comme vous le voyez, quand ils arrivent dans l'océan, eh bien, ils se déposent encore plus rapidement par grossissement. C'est ce qu'on appelle la coagulation, flocculation. Opération qu'on utilise en traitement des eaux, bien sûr pas en mettant du sel comme c'est le cas ici, mais par d'autres opérations. Je ferme cette parenthèse sur la formation des estuaires que j'aime bien donner à mes étudiants quand je parle de la coagulation-flocculation. Une autre partie des particules en suspension et colloïdes qui sont véhiculés par l'eau sont les micro-organismes. J'ai fait venir, merci d'avoir accepté, Yann Echard, qui est professeur à l'Université de Poitiers, qui a accepté de m'accompagner parce que c'est un éminent spécialiste de la microbiologie. Et vous voyez sur votre facture d'eau parfois bactériaux ou bactériologie, mais bactériaux peut-être quand c'est un petit peu raccourci. Et en fait, des micro-organismes, il y en a des milliers, je veux dire, Yann, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais pas. On ne connaît pas tout, on ne les connaît pas tous. Mais dans le domaine de l'eau, on suit particulièrement Escherichia coli. Escherichia coli, qui est une bactérie. Pas inoffensive, hein, parce que bactérie qui peut provoquer des diarrhées, des gastro-entérites sévères parfois, notamment quand la population est un peu fragile. Et on les suit généralement de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on les met sur un milieu de culture, bon là, qui a été coloré, je suppose, pour la photo, peut-être que c'est la couleur normale de ce milieu de culture. Et puis, ces bactéries se développent et ensuite, on va compter les colonies, comme vous voyez par ici, par exemple. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette très belle photo de colonies d'Escherichia coli. Hein, j'ai mis la référence en haut. Alors, je ne sais pas si c'est un milieu de culture ou un support solide, mais vous voyez, ils vont se développer de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on les compte. Alors, quand vous voyez bactériaux sur une facture d'eau, en fait, c'est principalement Escherichia coli qui est mesuré. Parce que Escherichia coli est un indicateur, parce que Escherichia coli est un outil, en fait, qui permet à l'exploitant, distributeur, comme on en a dans la salle ici, peut-être plusieurs d'ailleurs, de dire la qualité bactériologique de l'eau est correcte ou pas. Alors, demain, il faudra faire des progrès dans ce domaine-là. Et je ne peux pas non plus résister à vous montrer cette photo qui est beaucoup moins belle, mais qui est très récente. Yann, je pense, on a maintenant des compagnies d'eau. Enfin, là, il s'agit d'une compagnie publique parisienne, pour ne pas la citer, qui est capable de, par des outils qu'on appelle spectrométrie de masse par Malditov, alors je ne vais pas vous décrire, je vous fais grâce du fonctionnement de ce système, qui est capable d'identifier maintenant en quelques heures, on a progressé énormément là-dessus, 1500 souches de bactéries ici, comme vous le voyez. Alors vous ne voyez pas les bactéries, vous voyez des fragments de protéines qui correspondent à des bactéries. Mais aujourd'hui, dans les réseaux des eaux de Paris, on trouve 1500 souches bactériennes identifiées par cette méthode, dont la moitié sont des Escherichia coli, de différentes espèces, bien évidemment. Donc tout ça pour vous dire que même si à notre échelle de contrôle tous les jours, on va faire qu'un contrôle d'Escherichia coli, on est capable d'aller beaucoup plus loin sur le contrôle. Alors, il y a aussi dans les eaux d'autres micro-organismes. Alors, les premiers que je vous ai montrés, les coliformes, c'est des détails qui sont de 0,5 à 7, 8 microns, quelque chose comme ça. Ceux-là, les protozoaires, c'est des tailles beaucoup plus importantes. Hein. Alors, vous voyez les photos, quand on voit ça en gros, on se dit, oh là là, s'ils avaient la taille d'un humain, ça serait vraiment très impressionnant. Ce sont des micro-organismes qui font quelque chose comme jusqu'à 200 microns à peu près. Et qui présente un danger aussi. Alors, on ne les suit pas actuellement dans le domaine de l'eau, et pourtant, on en a dans les eaux. La première incident qu'on a eu avec Cryptosporidium parvum, ici, date de 1973, je crois que c'était ça la date, à Milwaukee, Minnesota, ou non, Wisconsin, je ne sais plus, Wisconsin peut-être, Milwaukee, oui, et où il y a eu quand même 69 morts hein, liés à une épidémie de diarrhée, de gastro-entérite liée à ce... Donc on ne contrôle pas encore, n'est-ce pas, Kofi, ce genre de... disons d'une manière systématique, bien sûr, dans les eaux, mais on commence à s'y intéresser. Il y a des contrôles qui se font de temps en temps, et puis ça risque de rentrer aussi dans les réglementations en matière d'eau. Et puis vous avez alors plus petits, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est des micro-organismes. Certains microbiologistes ont tendance à dire que pas des êtres vivants, des êtres qui se développent en modifiant ou en métabolisme des autres organismes des organismes vivants, donc les virus. Les virus, là, on en a dans les eaux. On en a, virus poliomyélitique, par exemple, hein, pour citer celui-là. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire, là, je vous mets un peu la peur au ventre, on verra après ce qu'on a in fine. Eh bien, dans les eaux transportent des choses en suspension qui sont plus ou moins visibles. Hein, les virus ne sont pas visibles, bien évidemment. C'est même presque à l'état du dissous. Et dont certaines sont des dangers potentiels. On reviendra sur les dangers juste après. Et puis, l'eau dissout des choses. Là, j'ai trouvé une belle photo de carrière de calcaire extraite de cet ouvrage, avec, vous voyez, des fissures. Alors, évidemment, quand l'eau s'écoule à travers tout ça, ou dans tout ça, vous allez avoir une réaction chimique. Excusez-moi de faire de la science, je ne ferai pas toujours, à la fin, on a un peu vulgarisé. Vous avez une réaction chimique, ça, c'est le calcaire, d'accord ? Ça, c'est l'anhydride carbonique, le gaz carbonique que l'eau, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est un excellent solvant. Donc, quand l'eau tombe du ciel ou quand l'eau est dans l'atmosphère, on va dire, elle se charge en gaz, en oxygène, en azote. On a besoin, la vie en a besoin de cet oxygène et cet azote, mais aussi en CO2. Rien et d'où il vient le CO2. Je parle là du CO2 de l'air pur. Hein, même dans l'air pur, le pH de l'eau de pluie, ça encore c'est quelque chose que je fais calculer à mes étudiants assez fréquemment, il est de 5,7. Alors pour les chimistes, ça vous dit quelque chose, bien sûr, Charles, mais 5,7 c'est légèrement acide. D'accord ? Légèrement acide. Et alors évidemment, si vous ajoutez un peu plus de CO2 lié à la pollution, ou des oxydes de soufre, ou d'azote lié à la pollution atmosphérique, vous descendez tellement le pH de l'eau que vous avez le phénomène de pluie acide qu'on connaît. Mais restons sur le milieu naturel. Donc, le fait d'avoir dans l'eau un peu de CO2, donc d'avoir un pH légèrement acide, ça fait la même chose que quand vous mettez du vinaigre sur votre tartre au fond de la gamelle, de la casserole. C'est-à-dire que ça le dissout. Et ça dissout votre tarte en introduisant dans l'eau du calcium et du carbonate, des carbonates. Hydrogénocarbonate, là, plus exactement. Ce sont les deux éléments minéraux les plus présents dans les eaux naturelles, liés à ce mécanisme connu. Alors là, j'ai mis un égal, mais c'est un équilibre, en fait. C'est quelque chose qui se déplace de gauche à droite, hein, ou de droite à gauche, suivant les conditions du milieu. Je vais vous montrer une photo juste après. Mais il n'y a pas que du calcium et des carbonates. On voit, on dissout aussi dans l'eau du magnésium, des sulfates, des chlorures, du sodium, qui sont des éléments qui sont considérés comme naturels et plutôt bons pour la santé, pas toujours bons pour les tuyauteries quand il y en a trop, vous le savez. Mais on dissout aussi un peu plus profondément du fer et du manganèse. Le fer n'est pas trop gênant, sauf que ça donne un mauvais goût à l'eau quand même. Le manganèse, sur sa toxicité, on est partagé, il ne faut pas dépasser une certaine concentration. Et puis, plus grave, quand on est au niveau de la roche du socle granitique, on a quelques eaux souterraines comme ça, dans le sud de la Vienne, par exemple, hein, eh bien, on peut dissoudre du fluor, on peut dissoudre de l'arsenic, là, évidemment, c'est un autre problème, hein, et puis parfois du sélénium, mais le sélénium, c'est plus un problème de sédiments qu'un problème de roche, mais par exemple, à la roche posée, on a des eaux souterraines qui ne sont pas très profondes, qui sont très chargées en sélénium. On utilise, le sélénium n'est pas quelque chose de très sain pour la santé, mais on l'utilise pour d'autres finalités, pommades et autres. Enfin, sain pour la santé quand on l'ingurgite, je veux dire, mais en termes de pommade, apparemment, c'est bien la preuve, c'est le thermalisme à la roche posée. Petite parenthèse scientifique, regardez cette belle photo de grotte là. Je reviens un peu sur mon équilibre là. Vous savez pourquoi il y a des stalagmites et des stalactites dans les grottes ? Ben parce que l'eau qui arrive là, qui s'écoule, vous savez que ça s'écoule toujours là-dedans, c'est une eau qui a traversé pendant des années, hein, parfois des centaines d'années, les roches dont je parlais tout à l'heure. Donc qui s'est chargée en calcium, qui s'est chargée en carbonate, c'est chargé aussi en matière organique et en bactéries. Les bactéries ont consommé les matières organiques, ont produit du CO2, si bien qu'on se retrouve dans ces eaux qui vont arriver, avec une teneur en CO2 qui est bien supérieure à la teneur qui équilibre cette réaction. Donc, si bien que mon équilibre est vraiment, parce qu'il y a beaucoup de CO2, mon équilibre est déplacé vers la droite. Ce sont des eaux qui sont très chargées en calcium et en hydrogénocarbonate. Dès qu'elles arrivent à l'air, qu'elles goûtent, la partie du CO2 en excès s'évapore. Comme si vous chauffiez dans une casserole. Donc votre équilibre se redéplace par là et le calcaire se redépose. C'est une réaction chimique tout simple que vous pouvez faire si vous prenez de l'eau comme ça, vous la chauffez, vous faites partir le CO2 qui équilibre tout ce système-là et vous allez déposer du calcaire au fond de votre casserole. Ça, sur une analyse d'eau, ça s'appelle la dureté de l'eau, le calcium. Hein, on reviendra un peu sur ces histoires de dureté, mais je voulais un peu vous illustrer quand je peux par d'autres choses. Alors, moins marrant, dans l'eau, il y a aussi des nitrates et des pesticides. Alors, bon, pas de commentaires, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas seulement l'agriculture intensive qui est responsable de ce problème. Vous-même, vous êtes responsable de l'utilisation de pesticides au jardin, les routes, l'entretien des routes, l'entretien des voies ferrées également, mais enfin, quand même, l'agriculture, par l'épandage d'engrais et de pesticides, apporte évidemment des polluants dans les eaux. L'industrie. L'industrie apporte des métaux lourds. Alors, j'ai pris des exemples, là. Bon, alors là, c'est un peu loin, Azerbaïdjan, pollution chimique par des métaux lourds, c'est loin de chez nous. Enfin, ça, c'est dans les Cévennes, quand même. C'est pas si loin que ça. Donc, il y a tous ces apports de métaux qui vont également se dissoudre en partie dans l'eau. Qui vont se dissoudre et qui vont parfois se transformer en composés organométalliques, comme le mercure, par exemple, faire du méthylmercure, qui est très, très dangereux pour la santé, qui en plus s'accumule dans les êtres vivants, dans les poissons notamment, et se concentre. Et puis, il y a d'autres polluants, bien sûr, industriels, comme les PCB, on en parlait beaucoup des PCB, polychlorobiphényl dans le Rhône, les hydrocarbures, les polyhydrocarbures aromatiques, etc. Je ne veux pas vous faire un inventaire à la Prévert. Et nous, la pollution domestique. Est-ce que la pollution domestique est complètement éliminée par les stations d'épuration? Il y a quelques années, à l'époque, faisait référence tout à l'heure Yves, on ne s'occupait pas des micropolluants dans les rejets domestiques. On s'occupait microbiaux, bien sûr, bactériaux, matières organiques, azote, phosphore. Aujourd'hui, on a des outils qui sont hyper sophistiqués. On est capable d'aller analyser des nanotraces de composés. Donc, on va regarder les micropolluants. Micropolluants, ça veut dire polluants à l'état de trace, micro, hein, organique, qu'on peut retrouver. Et on retrouve, des résidus pharmaceutiques, des hormones, des choses qu'on rejette depuis des années, hein, et qu'on appelle micropolluants organiques, je me répète, excusez-moi, et on se pose des questions aujourd'hui pour savoir si ça traverse toute la ressource en eau, ça arrive sur les stations d'eau potable, et qu'est-ce que ça devient au niveau de la potabilité des eaux. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, le tableau dressé de tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Bien sûr, je vous ai donné que des grandes classes de substances. Je vous rappelle la turbidité, les micro-organismes, donc la bactério, les éléments naturels, minéraux, calcium, fer, manganèse, dont certains peuvent être très toxiques comme l'arsenic, la pollution, métaux lourds, pollution par les micropolluants, notamment les micropolluants organiques dont je viens de parler. Alors, est-ce qu'il y a des poisons dans les eaux naturelles? Je ne parle pas de l'eau de boisson, je parle des eaux naturelles. Alors, n'oubliez pas ça quand même, et peut-être que certains d'entre vous étaient présents à la conférence d'hier soir ou à d'autres conférences. On sait aujourd'hui que sur les 7 milliards d'habitants, on vient de passer le chiffre de 7 récemment, sur Terre, il y en a plus d'un milliard. Alors, les chiffres, évidemment, ne sont pas très précis, mais on sait qu'il y a plus d'un milliard d'humains qui n'ont pas d'accès à une eau de boisson provenant d'une source améliorée. Je ne dis pas une eau potable, mais une eau de boisson provenant d'une source améliorée. Et on sait aussi que ceci est à l'origine de à peu près 5 millions, certains citent le chiffre de 6 millions de décès par année dans le monde. C'est énorme. Je vais revenir sur les maladies tout à l'heure. Mais c'est énorme. Et le problème de fond, donc oui, pour ces populations, l'eau naturelle est un poison. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont vraiment rien d'autre à boire. Enfin, en termes de qualité d'eau. J'ai vu les films à Jarnac qui étaient organisés dans le cadre aussi des manifestations sur l'eau de Mendès France. Samedi, il y avait des projections sur des... Bien sûr, puisque c'était un film, c'était bien plus beau que ce que je montre ici. Mais on voyait vraiment des situations de prélèvement d'eau dans des ressources en eau vraiment hyper polluées et que les gens utilisaient pour consommer tous les jours. Hein. Bouilli ou pas bouilli, c'est après un autre problème, probablement en partie, mais pas toujours. Donc évidemment, on a des maladies. Alors là, j'ai énuméré un certain nombre de maladies hydriques provoquées par des micro-organismes, hein, notamment ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, je ne vous ai pas montré le Vibrio choléra, mais c'est évidemment le plus terrible en termes de décès dans le monde. Mais on peut citer aussi Salmonelle, on peut citer aussi Shigella pour la dysenterie bacillaire, Escherichia coli qu'on retrouve ici, les cryptosporidium, les Giardia, que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, ces espèces de bêtes là, on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction. Pour les gastro-entérites, les diarrhées, le pseudomonas, le virus poliomyélitique, le virus Coxsackie A et B pour les méningites, le cryptosporidium qui est également responsable de lésions du cerveau, enfin bref. Il y a toute une batterie, évidemment, c'est pas que dans l'eau qu'on peut trouver ça, hein, on peut trouver ailleurs. Mais ce sont des maladies hydriques reconnues. Et puis je peux ajouter à ça celles qui sont dues à la pollution. Alors elles sont moins dramatiques au sens radical que le choléra. Elles sont plus insidieuses. Hein, mais le plomb, on sait, est responsable du saturnisme. Et l'apport de plomb par l'eau n'est pas quelque chose de négligeable pour ces populations. Les nitrates, et même si on a très peu de cas dans le monde recensé, responsable de la méthémoglobinémie, qui est la difficulté à transporter l'oxygène par le sang. Les métaux lourds, l'aluminium, le mercure, toutes les maladies neurodégénératives, Alzheimer en particulier, les cancers, sur le cadmium, l'arsenic, mais aussi un certain nombre de micropolluants organiques qu'on suspecte, qui sont suspectes de provoquer des cancers, les hormones pour les maladies hormonales, j'en passe. Là, je vous ai mis une photo, c'est Bangladesh. Vous voyez à peu près où on trouve des... Donc ça, c'est la superficie du Bangladesh. En rose, c'est des zones où il y a de l'arsenic dans les eaux et où il n'y a pas de malades liés à l'arsenic. En bleu, il n'y a pas d'arsenic détecté et pas de malades non plus. Et en rouge, c'est des zones où il y a de l'arsenic et des malades qui sont généralement des cancers de la peau, comme ce pauvre monsieur ou dame le montre, ou enfant peut-être, le montre sur ses pieds. Alors, venons-en quand même au but de la conférence. L'eau que vous consommez, l'eau que le Siver ou le Grand Poitiers vous distribue, est-ce un poison? Alors, vous doutez bien de ma réponse. Elle est traitée et distribuée pour être potable. Donc, bien évidemment, ce n'est pas un poison. C'était un poison. On aurait déjà des morts. On les aurait déjà comptabilisés. On aurait fait quelque chose. Alors, pourquoi? Parce que elle est traitée. Elle est traitée. D'abord quand même. Oui, pour remettre quand même les choses bien en tête. Ce que je veux, c'est vous amener, si vous voulez, à une compréhension du système, puis aussi à un débat. Vous me dites, c'est ce que vous pourriez me dire, elle est traitée, donc elle est potable. Oui, d'accord, mais c'est quoi une eau potable? On fouille, on va voir sur Internet, si vous voulez, vous le trouverez probablement. Moi, je vais voir plus dans la réglementation du Code de la santé publique. Et je vais trouver cette phrase-là, une eau potable, qu'on appelle en fait une eau destinée à la consommation humaine, c'est ça la vraie définition d'eau potable, ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Alors oui, ça paraît lourd, mais si tu regardes bien, chaque mot a son importance. Tu te doutes bien que quand ils ont écrit ça, au niveau européen, en fait, ils ont tout pesé. Alors d'abord, si on regarde micro-organismes, parasites, déjà vous voyez ce que c'est. Micro-organismes, par exemple les coliformes, pareil, choléra aussi. Parasites, cryptosporidium, vous savez, les bêtes venues d'un autre monde. Autres substances, c'est toutes les substances chimiques dissoutes. Donc tout ce qui peut constituer un danger potentiel. Ça veut dire que, tout compte fait, il n'y a pas de restriction. Voir qu'il y a des normes ensuite, je ne vais pas vous les énumérer, ça serait trop fastidieux, mais il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire toute substance qui présente un risque de danger pour la santé publique, normalement, ne doit pas être présente dans l'eau. Attention, ne doit pas contenir, regardons les mots, un nombre ou une concentration de micro-organismes. Donc un nombre de micro-organismes ou de parasites ou une concentration de substances. Ça ne veut pas dire zéro. Ça peut être zéro pour Escherichia coli, mais ça peut être une certaine concentration qu'on accepte, qu'on considère comme étant admissible, tolérable. Donc, il nous faut ce qu'on appelle derrière cette définition des normes de qualité. Alors, bien évidemment, les normes de qualité vont couvrir une cinquantaine de paramètres à peu près. On ne peut pas couvrir l'ensemble des milliers de substances qui vont être présentes dans les eaux. Mais il y a quand même cette phrase, quelque part, qui protège. Ça veut dire que, tout compte fait, si votre substance dangereuse n'est pas dans la norme de qualité, mais s'il a été prouvé qu'elle a déclenché un danger au niveau de la consommation, vous êtes responsable. Celui qui vend, ou qui distribue, ou qui exploite, ou à qui appartient l'eau, après ça dépend des contrats qui ont été signés. Alors, la question qu'on peut se poser, il y a juste là que j'ai du texte, hein. C'est, mais comment on les établit, ces normes de qualité? Je vais vous montrer un petit exemple derrière, chiffré. Mais quand même, regardons ça. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes qui datent de l'histoire. Je veux dire, quand on disait à une époque, une eau ne doit pas être colorée, ne doit pas être turbide, ne doit pas présenter ni de goût, ni d'odeur perceptible. C'est des normes historiques. À l'époque, on n'avait pas les outils pour mesurer mieux. Et maintenant, il y a des normes un peu plus, évidemment, élaborées. Par exemple, ici, si on n'a pas d'étude épidémiologique, on n'en a jamais, ou quasiment jamais, une étude épidémiologique, vous savez en quoi ça consiste? Ça consiste à dire, on va cerner une population qui est alimentée en eau potable, qui contient tel toxique, et puis on va compter les malades. Oh, c'est un peu délicat, bien évidemment. Si on peut le faire, parce que avec le recul, on sait que tel produit est toxique maintenant, on ne le savait pas avant, et puis on a les données, mais souvent on n'a pas les données chiffrées analytiques, et bien évidemment, on ne va pas s'amuser à balancer à la population un toxique pour compter les malades ensuite, pour faire l'étude épidémiologique. Donc la plupart du temps, on s'appuie sur des tests sur animaux. Et on définit ce qu'on appelle une... Alors, ça, c'est... on rentre dans les sigles des spécialistes, une dose sans effet négatif observé. Voilà ce que ça veut dire. Sur animal, par exemple, on va dire, tel produit, si on donne à l'animal tant de milligrammes par kilo de poids et par jour, il n'y a pas d'effet négatif. Et puis, à partir de cette dose, on extrapole à l'homme par ce qu'on appelle une dose journalière admissible, DJA. Alors, on n'est plus dans les mêmes chiffres, parce que là, on a des facteurs de sécurité énorme. On arrive plutôt à des microgrammes par kilo par jour. Puis on tient compte du pourcentage d'eau dans le bol alimentaire, du pourcentage d'apport par l'eau de ce polluant dans le bol alimentaire. C'est-à-dire, on va dire par exemple, ce pesticide, on considère qu'on peut en prendre dans la vie 10% par l'eau et 90% par le reste. Les radis, la salade, le vin, tout ce que vous voulez. On ramène un poids de 60 kilos pour une consommation de 2 litres d'eau par jour. Ce qui est pas mal quand même, 2 litres d'eau par jour. Pas pour qui, moi, c'est pas mon cas toujours. Donc voilà à quoi on arrive. Par exemple, vous voyez, je vais prendre le cas d'un pesticide dont on sait que la, des, SENO est de 0,7 mg par kilo de poids de rat, par exemple, des rats ou des souris, et par jour. On extrapole ensuite, il y a un facteur 1000 là, pour ce pesticide-là. Alors, comment sont établis ces facteurs? Après, c'est un autre problème. Il faut tenir compte des données de l'OMS, d'un certain nombre de choses. On arrive à une, pour l'homme à 0,7 microgrammes par kilo et par jour. Si on considère que ce pesticide est apporté dans le bol alimentaire par l'eau à raison de 10% du bol alimentaire, pour quelqu'un de 60 kg qui consomme 2 litres par jour, on fait cette espèce de règle qui est toute simple, hein, que des règles de 3, et on arrive à 2,1 microgrammes par litre. C'est, le pesticide en question, c'est l'atrazine. J'ai pris l'atrazine comme exemple, 2,1 microgrammes par litre. Et ben, les Américains, ils sont arrêtés là. Ils ont arrondi, ils ont mis à 2. Parce que 2,1, bon, ils ont arrondi, ils ont mis à 2. Mais nous, on a fait plus fort. On s'est mis à 0,1. C'est-à-dire 20 fois plus faible, pour vous dire les sécurités qu'on prend. Alors, c'est toute une histoire. C'est parce qu'à une époque, il n'y avait que des pesticides organochlorés dans les eaux, qu'on était capable d'analyser les organochlorés à 0,1, mais pas au-dessous de 0,1, qu'on disait, les gens de la santé, il ne faut pas d'organochlorés dans les eaux. Comme on ne sait pas mesurer 0, on va mesurer 0,1. Et après, avec l'histoire, on a laissé 0,1 à tous les nouveaux pesticides qui sont arrivés sur le marché, même si leur toxicité permettait de tolérer 20 fois plus dans l'eau. Hein. Donc, je vous montrais ici, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif ça, mais vous montrais un petit peu comment on fait une norme aujourd'hui. Ah oui, juste au passage, les pesticides en question, ça s'analyse avec des appareils qui coûtent 200 ou 300 000 euros, c'est ça Bertrand, à peu près. Hein. Le dernier que tu as commandé, ça devait être 400 000 euros. Alors, l'eau est traitée, bien sûr, en tenant compte de ces normes. En quoi consiste ce traitement? Là aussi, je vais être un petit peu scolaire, mais il faut quand même vous dire les choses telles qu'elles se font. Ce n'est pas si simple que ça de faire de l'eau potable. Ben on va pomper ce qu'on appelle l'exor. D'accord, on peut faire des pré-traitements, puis ensuite, on clarifie. Alors, le but, là, c'est justement d'éliminer la turbidité que je vous montrais tout à l'heure. Alors ça se fait dans des appareils comme ça. Hein. Ça, c'est un décanteur. Ceux qui sont habitués à ou qui ont visité déjà la station d'eau potable de Belgeoine, bah, ils ont vu des décanteurs qui avaient cette allure-là. On peut filtrer aussi. Hein. On fait passer l'eau sur des filtres à sable. Alors là, on ne voit pas le sable, mais on fait couler l'eau à travers le filtre à sable. Le sable est dessous. Là, on laisse décanter l'eau, c'est-à-dire que c'est les particules qui descendent. Et là, on passe l'eau à travers un filtre à sable, comme si on la filtrait à travers un sol. C'est la moindre des choses de faire ça. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle un traitement de finition. Là, il s'agit de l'ozone, hein, de l'ozone. Mais à Poitiers, par exemple, sur l'usine du Clin, ils utilisent des charbons actifs pour peaufiner ce traitement. Et puis, à la fin, on fait une désinfection à l'eau de Javel ou au chlore, et puis on distribue. Là, on voit dans un château d'eau, on distribue. Normalement, ce qui sort de là, c'est en accord avec les normes dont je vous parlais tout à l'heure, en vous montrant comment elles ont été établies. Alors, il y a quand même un autre problème. C'est que pour ces traitements et cette distribution, on introduit de nouvelles impuretés dans l'eau qu'on n'avait pas au départ. Par exemple, pour faire ça bien, il faut ajouter un sel d'aluminium. Il faut, pas nécessaire, mais c'est ce qui se fait dans beaucoup de cas dans le monde. Donc, on risque de retrouver un peu d'aluminium dans l'eau. Pour faire la désinfection par le chlore, ici, on ajoute du chlore, de l'eau de Javel. Et ce chlore va réagir avec des matières organiques qui ne sont pas très dangereuses, qui sont des matières organiques naturelles présentes dans l'eau, hein, des traces, soit, mais qui n'ont fait jamais de mal à personne, pas plus que le tanin dans le vin, par exemple. Mais sauf que ces matières organiques réagissent avec le chlore et elles font ce qu'on appelle des dérivés chlorés. Cancer de la vessie possible avec ces dérivés-là. Quand on met de l'ozone, c'est très bien aussi, c'est un réactif très propre, sauf que s'il y a un tout petit peu de bromure dans l'eau, il y en a toujours un peu dans les eaux naturelles, ça fait partie des éléments naturels que je n'ai pas cités tout à l'heure, Ça fait des bromates, et les bromates sont responsables du cancer du rein chez le rama, l'F344, par exemple, parce que j'ai étudié personnellement cette affaire. C'est pour ça que je suis aussi précis. Donc, là aussi, un peu de doute. Alors, non seulement les impuretés, on les a éliminées. On avait des polluants, on les a éliminés. On avait des colloïdes, on les a éliminés. On avait des bactéries, on les a éliminés. Mais on en a introduit une nouvelle. Donc, il faut aussi des normes de qualité et des contrôles pour ces nouvelles impuretés que nous avons introduites. Alors, il faut quelque part que je vous dise ce qui se passe quand même chez nous, parce que vous voyez bien que je veux en venir. L'eau n'est pas un poison, mais présente un danger quand même, je dirais, sur ma conclusion tout à l'heure. À l'échelle de notre région, d'où vient l'eau, ça c'était juste pour illustrer, pour m'amuser à faire des camemberts. Bon, bah, en Poitou-Charentes, vous voyez, on est à, comme au niveau national. On pompe à 2/3 dans les eaux souterraines. Donc un peu moins de pollution que dans les eaux de surface. Hein, déjà la turbidité dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a quand même des eaux superficielles et des mélanges. Pareil pour la Vienne. Vous voyez, on est à peu près dans le même rapport. Sur Poitiers, on retrouve le Clain ici, c'est-à-dire à peu près 1/3 qui est pompé dans le Clain. Le reste... Beaufleury, on peut considérer ça comme une eau souterraine, c'est une autre source quand même. Et puis Charassé et Sarzec principalement, plus quelques autres petits forages. Bah, oui, mais en termes de qualité, et j'espère que je ne me ferai pas attaquer par monsieur le directeur du CIVER qui est présent dans la salle. Alors, il faut que je commente un peu en termes de qualité. On va rester 2 minutes, si vous voulez, 3-4 minutes là-dessus avant que je fasse ma conclusion et qu'on parte sur un débat. Là, vous avez le pourcentage de la population qui, pendant l'année 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, c'est les chiffres que j'ai pu trouver, a été exposée à un dépassement de normes. Alors, si on prend l'année 2001, il s'agit de l'ensemble de Poitou-Charentes. Hein. Je ne me suis pas amusé à faire des synthèses sur Poitiers principalement, d'autant plus que je n'avais pas forcément toutes les données. Mais c'est sur l'ensemble de Poitou-Charentes, parce que grâce à l'Agence régionale de la santé, hein, ex-DAS, on a ces relevés tous les ans. On reçoit, enfin, peut-être pas vous, mais moi je le reçois, vous voyez, un petit catalogue comme ça, là, ça c'est celui de 2010, c'est le dernier sorti, on n'a pas reçu encore celui de 2011, enfin, je ne pense pas. Sur lequel on a un certain nombre de données comme ça, alors pas sur tous les paramètres, mais sur la majorité d'entre eux. Alors, près de 25%, ça peut vous paraître beaucoup. Attention, ce sont des valeurs très honnêtes. Ce ne sont pas des moyennes. Tout compte fait scientifiquement, on pourrait raisonner en moyenne. Dire, même s'il y a un jour où ça dépasse, si on le moyenne avec les 365 jours de l'année, on ne va pas avoir le dépassement. Donc là, c'est vraiment les valeurs maximales. C'est les valeurs de dépassement, même si le dépassement a eu lieu sur un jour. Pendant lequel, d'ailleurs, la population a été prévenue par le préfet. Que ce soit un jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Donc vous voyez, dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça encore, en 2001, on avait des dépassements assez forts en pesticides. Il ne s'agit pas de pourcentage de dépassement, hein, pourcentage de population desservie. Hein. Donc 25% de la population a eu un dépassement au moins une fois dans l'année. Pour les nitrates, 15% au moins une fois dans l'année. Pour la bactério, pareil, autour de 25% au moins une fois dans l'année. Pour le fluor, pas de dépassement du tout, c'est pas que j'ai pas de valeur, c'est que toutes les valeurs sont à zéro. Et pour la turbidité, en fait, je n'ai que 2 valeurs, hein, je suis obligé d'expliquer là, parce qu'on ne voit pas, un petit peu de dépassement quand même. Bon, on voit bien sûr que ces choses évoluent. Hein, on va plutôt vers quelque chose qui est presque parfait, tout au moins par rapport à ces paramètres. C'est-à-dire, bon, en 2010... moins de 2% de population qui était exposée à un dépassement de pesticides, peut-être une seule fois dans l'année. Hein. Pour les nitrates, bon, c'est presque zéro. Pour la bactério, c'est zéro en 2010. Hein. Et pour le fluor, je vous ai dit, c'est zéro partout. Là, pour la turbidité, c'est quelque chose comme 0,5 ou 1% en 2010. Donc, malgré ces dépassements, qui, je rappelle... Et je ne suis pas là pour vendre de l'eau, hein, bien évidemment. Je suis là pour aussi dédramatiser un petit peu le sujet. Malgré ces dépassements, qui, je vous rappelle, ne sont pas des valeurs moyennes, sont des valeurs ponctuelles, et qui, normalement, si tout s'est fait dans les bonnes conditions, ont fait l'objet d'une annonce par la préfecture. L'eau du robinet n'est évidemment pas un poison. Alors, deux diapos de conclusion, sur lesquels on peut faire un peu de philosophie derrière, ou de politique, ou ce que vous voulez. Pourquoi un tel impact médiatique sur l'eau ? Pourquoi un tel impact médiatique, notamment par rapport aux émissions dont je vous faisais état en début de discussion ? Peut-être que l'eau, et je vous l'ai montré au début, ça présente un danger. C'est un danger potentiel. Je ne veux pas faire une comparaison osée avec le nucléaire, mais je veux dire, le nucléaire, on sait qu'il y a un danger potentiel, mais on est rassuré quelque part, parce qu'on nous dit, c'est vrai, c'est bien contrôlé, c'est bien sécurisé, etc. Mais on sait qu'il y a un danger potentiel quand même. C'est-à-dire que si un jour ça pète, on l'a bien vu au Japon récemment, s'il y a un danger. Peut-être que ces impacts médiatiques autour de l'eau, c'est peut-être un peu le même problème. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un danger potentiel, on sait que l'eau, la ressource, peut être fortement pollué. Je vous l'ai montré en première partie de conférence par la bactério, par les métaux lourds et d'autres choses. Donc, même si c'est bien traité et bien contrôlé, la preuve, c'est qu'il y a quand même parfois quelques dépassements. Il y a un danger potentiel, donc c'est probablement pour ça que c'est un sujet très sensible au niveau des médias. L'eau est chère aussi, donc on paye sa qualité, on paye sa distribution. Mais on la paye quand même beaucoup moins cher que l'eau embouteillée, qu'on paye beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, est-ce qu'il y a des solutions d'amélioration ? Oui, bien sûr, on a des solutions d'amélioration, qu'on l'espère. Bon, c'est vrai que la première chose à faire, c'est probablement d'améliorer la protection des ressources. Ce que je vous ai montré sur l'épandage agricole, ce que je vous ai montré sur les pollutions industrielles, bon, c'est quelque chose d'assez banal, tout ça, de le dire, parce que vous le savez. Mais faire de la protection des ressources, c'est, à mon avis, c'est primordial. Mais ça ne suffira pas pour retrouver une eau naturelle qui est consommable directement. On ne pourra plus, et peut-être l'a-t-on plus jamais le faire, boire de l'eau directement dans la ressource. Pourquoi ? Parce que même en améliorant la protection, il y aura toujours un peu de pollution. Parce que les ressources en eau sont de plus en plus inégalement réparties sur le monde. Parce que l'économie, développement économique, développement démographique est tel qu'on sera toujours obligé de distribuer, de traiter de l'eau, de la distribuer et puis de la faire payer quelque part, parce que si on ne la fait pas payer, ça sera le gaspillage probable, même si on la fait payer pas cher ou presque pas cher dans certains pays. Autre solution qu'on est en train de mettre en place, je vous ai dit tout à l'heure que les traitements actuels faisaient appel à l'ajout de produits chimiques, l'aluminium, le chlore, etc. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place des techniques physiques qui malheureusement consomment beaucoup d'énergie, donc on tombe sur un autre problème, qui consiste à dire on fait passer l'eau à travers des filtres successifs, de plus en plus petits, comme, même si ce n'est pas un filtre, mais quand même comme on fait pour faire du dessalement d'eau de mer, par exemple, même si le principe est un peu différent. Je veux dire, on fait passer l'eau à travers des fils de plus en plus petits. Donc on voit ces choses-là se mettre en place. Il y en a un petit peu dans notre département, peut-être que Kofi pourra le dire, des procédés à membrane, ce qu'on appelle les procédés à membrane. Disons que ça commence à se développer, notamment sur les eaux souterraines, où on doit avoir maintenant peut-être plusieurs dizaines de pourcents d'installations en eaux souterraines, et puis un petit peu moins de 10% dans les eaux superficielles. Et puis peut-être aussi que dans les solutions d'amélioration, il faut faire de l'éducation, il faut faire de l'information en matière de protection, bien sûr, en matière d'utilisation des ressources et en matière évidemment de consommation d'eau parce que, effectivement, vous le savez, les consommations d'eau potable de cette qualité ne sont pas toujours justifiées à l'échelle, même à l'échelle d'une maison ou d'une habitation, quand on utilise l'eau pour les chasses d'eau ou qu'on utilise l'eau pour potable pour arroser le garage. Et puis peut-être qu'il y a quelques solutions, quelques alternatives qui, à mon avis, ne seront jamais des alternatives universelles, qui est la récupération de l'eau de puits. On en a parlé récemment au congrès qu'on avait organisé à l'ENSIP. Il y a eu un débat public un soir sur la réutilisation des eaux de puits en usage domestique. Est-ce une utopie ou pas ? J'ouvre un débat aussi là-dessus. Je vous propose des questions derrière, en fait. L'utilisation d'eau de pluie, je l'ai dit, peut-être aussi tout ce qui est récupération des brouillards pour certains pays, tous les traitements maison, hein, je ne vous l'ai pas montré ici, mais les problèmes de l'arsenic, par exemple, on peut les régler sur une simple carafe comme ça, en ajoutant un clou et un bout de citron, et en le mettant en l'exposant au soleil quand même. Bah, on fait des réactions avec l'acide citrique du citron et avec le fer. Du clou, et on peut comme ça traiter une eau qui est contaminée par l'arsenic. Alors il y a plein de petites solutions comme ça, mais la solution quand même majeure, c'est de continuer à protéger et traiter, distribuer et surtout faire payer un minimum les eaux consommées. Voilà, mesdames, messieurs, j'en ai terminé avec mon exposé. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'attends les questions. Excusez-moi, je termine par je vous la laisse, cette citation d'Eric Orsenna sur les problèmes d'eau dans le monde, hein, ça ne touche pas seulement l'eau potable, donc je ne la relis pas, je vous la laisse pendant les questions.
Merci beaucoup Bernard. Donc, je vous en prie, si vous avez des questions à poser, si vous le souhaitez, allez-y. Alors je sais que c'est difficile à démarrer, même pas, donc on y va. Et donc utilisez bien le micro pour des raisons d'enregistrement.
Est-ce que parfois on ne va pas trop loin avec la normalisation ? Est-ce qu'on n'impose pas des normes, des fois inutiles ? Inutilement, en tout cas. Je parle en particulier, parce qu'il me vient à l'esprit un cas, concernant l'arsenic.
Alors, concernant l'arsenic, ma réponse est non. On ne va pas trop loin. Je dirais que même, on ne va peut-être pas assez loin. Vous m'auriez posé la question sur le sélénium, par exemple, sur autre chose, vous auriez dit oui, on va peut-être un peu trop loin. Sur l'arsenic, non, on va pas trop loin, mais pour répondre d'une manière... Non, la norme de 10 microgrammes par litre pour l'arsenic est vraiment justifiée. Certaines personnes de la santé publique disent, vous pouvez reprendre le micro, hein, disent qu'on devrait même descendre encore plus bas. Hein. Mais pour répondre d'une manière plus globale à votre question... C'est vrai qu'on peut se poser la question jusqu'à quel luxe on doit se permettre encore en termes de réglementation. L'exemple des résidus pharmaceutiques, dont je n'ai quasiment pas parlé, est flagrant. On pense qu'on a dans les eaux potables actuellement quelque chose comme quelques dixièmes, on va dire allez, quelques centièmes de microgrammes par litre, donc quelques nanogrammes par litre, même quelques milliers de microgrammes par litre, millièmes de microgrammes. On ne sortirait pas quelques nanogrammes par litre de certains médicaments qui peuvent traverser l'usine d'eau potable, dont le paracétamol probablement pas, mais carbamazépine par exemple. Le problème, c'est est-ce qu'on doit vraiment réglementer ça ? Parce que quand on prend son gramme de paracétamol le matin dans son verre d'eau, avant d'en boire la même quantité dans une... Dans de l'eau, il faut boire des milliers et des milliers de mètres cubes. Je n'ai pas fait le calcul, c'est peut-être que des centaines de mètres cubes, mais c'est pour vous faire une image. Donc peut-être que parfois, on va peut-être un peu trop loin sur les normes, mais d'autres personnes dans la salle peuvent prendre la parole à ce sujet-là. Mais je crois quand même que si on veut vraiment un produit de qualité, et si on veut, même en tolérant quelques dépassements parfois, s'assurer qu'il n'y a absolument aucun risque, même si le risque zéro n'existe pas non plus, sur la population, je pense qu'il faut continuer quand même à fouiller et à regarder sur toutes ces substances qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas mesuré la toxicité, qui peuvent être présentes dans l'eau, parce que c'est un très bon solvant, hein, un très bon fluide transporteur en plus, toutes ces substances qui pourraient à terme poser des problèmes de santé publique parce que la population vieillit, parce que la population est plus fragile, par exemple. Donc non, je ne crois pas qu'on aille trop loin sur les normes. Vous voulez parler sur l'arsenic ?
Voilà, j'habitais l'Auvergne, et puis en Auvergne, j'ai vu le cas d'une commune, qui est la commune de Manzat, dans le parc des volcans. Et cette commune, on lui a imposé un traitement de son eau pour baisser le taux d'arsenic. Alors que jusqu'à présent, c'est-à-dire au début des années 2000, elle a pendant très longtemps consommé une eau où il y avait bien plus d'arsenic que les 10 mg ou les 10 microgrammes dont vous parliez. Et juste, c'est pour ça que j'ai posé la question juste avant. Et donc, je pense qu'on ne s'est pas trop demandé quels étaient les effets sur cette population d'avoir consommé si longtemps autant d'arsenic.
C'est une erreur, parce que c'était justement un cas très intéressant pour faire une étude épidémiologique et voir si parmi les gens qui avaient consommé cette eau, à condition qu'on ait donné sur les concentrations d'arsenic, depuis des années, il n'y avait pas quelques cancers de la peau, par exemple, une recrudescence de cancers de la peau un peu plus élevée que dans la moyenne nationale. Donc ça aurait été intéressant de faire ça. Mais bon...
Mais peut-être que par rapport à d'autres risques,
non, mais je crois que sur l'arsenic, il ne faut pas rigoler, quoi.
Et bonsoir. Je voulais bonsoir. Vous demander si des études étaient faites par rapport à l'eau contenue dans les bouteilles plastiques et s'il y avait des dangers par rapport au contenant.
Oui, alors, votre question, c'est sur la qualité, enfin sur le danger, le risque de consommer de l'eau du robinet. Donc là, c'est pareil, je veux dire, d'abord, ce sont des eaux qui sont contrôlées. Hein. Les eaux qui ont le label minéral sont des eaux dont la composition n'évolue pas et ne change pas depuis des décennies. C'est pour ça qu'elles ont un label minéral. Donc l'eau par elle-même, même si elle n'est pas traitée, mais si il y a toujours un petit risque, mais si elle est convenablement pompée, embouteillée, il n'y a pas de risque. Alors maintenant, effectivement, il y a le plastique. Sur le plastique, effectivement, on tombe sur la problématique des problèmes endocriniens et ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire les phtalates, par exemple, qui sont quasiment toujours présents dans un plastique pour laisser un peu de souplesse à la bouteille et pour éviter qu'elle se fendille sous l'action du froid, du soleil ou autre. Et puis le bisphénol A, qu'on doit avoir dans les bouteilles en plastique parce qu'on en a aussi dans les soupes, embouteillées ou en pack, on en a aussi dans pas mal de choses, hein, dans tout ce qui est pas mal de conserves. On en a même, paraît-il, sur les tickets de caisse, mais là on les mange pas, enfin moins que vous soyez papyrivore, mais je crois pas. Donc effectivement, là on se pose une question. Pour le moment, le problème de fond n'a pas été vraiment abordé en termes de santé publique. Il est étudié par un certain nombre de chercheurs. Je ne vous donnerai pas les concentrations parce que ce n'est pas que je vais les cacher, mais je ne les ai pas en tête. Les concentrations de ces produits qu'on peut retrouver dans l'eau. Ce que l'on fait actuellement dans mon labo, mon ex-labo, on fait des études épidémiologiques là-dessus. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le lait des femmes qui viennent d'accoucher la présence ou pas de ces produits, notamment le bisphénol A. Alors pourquoi ? Pour le relier ensuite, pour trouver une éventuelle relation, hein, je fais attention à ce que je dis, avec les malformations des bébés mâles que ces femmes viennent de mettre au monde. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas assez de données pour vous dire si on a un résultat positif ou négatif. C'est souvent négatif dans les études épidémiologiques, d'ailleurs. Mais on fait ce travail. Donc, et d'autres doivent le faire aussi dans d'autres pays, ce type de travail. Mais je n'ai pas de réponse précise à vous amener, à vous donner. Mais il est probable que le plastique de la bouteille soit effectivement une source de pollution, au même titre que les réseaux de distribution des eaux potables peuvent être aussi des sources de pollution quelque part. Notamment quand il y a des réseaux en plomb, mais ça c'est un autre problème. On essaie de les éliminer quand on le sait. Ma réponse est plutôt non, il n'y a pas de risque, mais avec un point d'interrogation sur ces fameux perturbateurs endocriniens.
Merci. Oui, alors je voulais intervenir au sujet du manque d'eau. La population du monde augmente, nous consommons de plus en plus d'eau. On nous parle d'autre part du réchauffement du globe et de la sécheresse. Est-ce qu'un jour, on ne sera pas obligé de se pencher sur l'utilisation de l'eau des océans ?
Oui, alors c'est vrai que ça sort du contexte de cette conférence. Je pense que c'était la conférence d'hier. Oui. Mais ça ne fait rien, je vais vous répondre quand même. Alors, si on regarde au niveau de la planète, on ne manque pas d'eau. Je vais vous donner des chiffres. De parler des eaux douces hein, et des eaux douces exploitables. Je ne parle pas des glaciers ou des eaux douces souterraines trop profondes qui sont quasiment inexploitables. On a à peu près 133 000 km3 d'eau de surface douce. Et c'est-à-dire que si on compte les eaux souterraines, on doit avoir facilement le double. 133 000 km3, donc allez, on va dire 150 000 km3, ça représente 150 000 milliards de mètres cubes, en fait, hein, quand même, pour donner une idée. Ça, c'est un chiffre. La demande mondiale en 2025 sera de 6 000 km3. 6 000, à comparer à 150 000. Donc, globalement, il y a assez d'eau. Douce. Le problème, bien sûr, vous le savez, c'est la répartition qui est... excusez-moi, je vais me lever pour vous regarder. C'est la répartition qui est complètement uniformément répartie. Il y a des chiffres qui ont été cités hier, je crois. On a, par exemple... pour certains habitants de l'Afrique du Nord, pas plus de 1000 mètres cubes. Moi, je crois que c'est même moins. Ça veut 500, elle a dit. Ah non, c'est pas 100 mètres cubes. Ah oui, Yémen, oui. Non, mais je parle en Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Ça doit être en dessous de 1000 mètres cubes d'eau douce disponible par habitant et par an. Alors que dans les pays du Nord, on va tourner autour de 10 000, 20 000, voire plus. Au Canada, par exemple, le mètre cube par habitant et par an. Donc, le problème, c'est la répartition, l'inégalité de la répartition. Et ça, vous avez raison, le réchauffement climatique va augmenter cette inégalité de répartition. Et le développement économique aussi, bien évidemment, puisque ce sont des pays qui se développent. Donc, ma réponse à la question, c'est, je ne vous ai pas fait une réponse, mais oui, c'est vrai, on va avoir des problèmes d'eau, c'est sûr, dans certains pays du monde, dans certaines zones du monde, très importants dans les décennies qui viennent. Quelle échéance, je ne sais pas, hein, mais on aura des problèmes. On aura des problèmes, sans compter que le développement économique, on citait tout à l'heure le cas de la Turquie et de la Syrie, par exemple, ou de l'Israël et des territoires occupés de Palestine, pardon, par exemple, dans le sud de la Turquie, vous avez un certain nombre de fleuves, mais il y a tellement de barrages qui sont construits qu'en Syrie, il n'y a plus assez d'eau, quoi. Donc, il y a aussi ce développement économique qui fait que les gens ont besoin d'eau pour irriguer, pour faire de l'alimentation, ont besoin d'eau pour produire de l'énergie, ont besoin d'eau pour l'industrie, etc., qui fait que ça va encore augmenter l'inégalité de la répartition. Donc, c'est vrai, vous avez raison, on va avoir des problèmes. Alors, est-ce que le dessalement de l'eau de mer est une solution ? C'est la deuxième partie de votre question. Oui, dans certains cas. Mais pas pour tout le monde, parce que quand vous êtes en plein milieu de la Syrie, par exemple, pour citer ce pays, il faut aller chercher de l'eau sur la côte pour la dessaler, c'est pas si facile que ça. Mais le dessalement de l'eau de mer peut être une solution, bien sûr, pour certains pays, à condition, derrière, d'y mettre l'énergie, parce que le dessalement de l'eau de mer, ça coûte cher, ça demande soit une distillation, soit une osmose inverse, C'est-à-dire un coût de l'eau qui doit être au moins 5 à 10 fois supérieur facilement. Hein. 5 fois, je pense quand même, au coût de l'eau qu'on a actuellement dans nos pays, par exemple.
Est-il vrai qu'au Sahara, à 20 mètres de profondeur, on trouve de l'eau?
Ah, là, vous me posez une question difficile, peut-être dans certains coins, oui. C'est vrai qu'on peut trouver de l'eau en forant un peu partout dans le monde. Mais est-ce qu'au Sahara en particulier, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire une bêtise. Je n'ai pas d'hydrogéologue avec moi, donc je regarde Yann Echard, mais non, lui, c'est la microbio, c'est les petites bêtes que vous avez vues. Excusez-moi.
Moi, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la question des pesticides et des nitrates. On a vu votre tableau tout à l'heure. C'est assez impressionnant et je crois que je ne suis pas le seul à me poser cette question quand on fait du vélo ou même en passant en voiture dans nos campagnes. Quand on voit les rampes, je suis petit-fils d'agriculteur, hein, je connais bien le sujet. Est-ce qu'on peut ne pas aujourd'hui, objectivement, est-ce que nous ne devons pas nous poser des questions sur l'avenir? Là, je vois Eric Orsenna, il se pose des questions dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Sur notre avenir à propos de l'accumulation donc de ces deux éléments, hein, les pesticides et les nitrates, dans le sol et qui pourraient, à certains égards, peut-être constituer ce qu'on appelle, allez, je vais employer un mot un peu provoquant, une bombe à retardement. Qu'est-ce que vous en pensez de l'accumulation de ces produits dans le sol?
Bonne question, mauvaise réponse probablement, parce que j'ai un avis quand même sur l'utilisation des nitrates des pesticides et des pesticides, bien évidemment. Si on utilise d'une manière un peu outrancière ces produits, c'est parce que on a une politique agricole peut-être qui n'est pas adaptée. Hein. Mais d'un autre côté, il faut aussi fournir des aliments aux populations. Aux populations indirectement, aux cochons, aux vaches, si vous voulez. Bon, mais indirectement, c'est ça. Est-ce que c'est une bombe à retardement? C'est ça la question. Puisque le mal est fait, et même si maintenant on a une utilisation plus raisonnée, je crois, de l'utilisation des engrais, des pesticides, une utilisation plus raisonnée. Les rampes dont vous parliez, c'était plutôt les rampes d'irrigation, hein, je pense, hein, d'arrosage. Ah oui, d'accord. Donc, on essaie quand même, je pense que les gens de l'INRA notamment, il y en a peut-être dans la salle, essaient de passer l'information, essaient de passer l'éducation pour éviter de gaspiller tout compte fait, hein, ces nitrates de pesticides. Alors, de là à dire que c'est une bombe à retardement, je ne crois pas, parce que les pesticides que nous utilisons aujourd'hui sont des pesticides qui sont quand même, je ne vais pas dire plus ou moins, qui sont biodégradables. La bombe à retardement, on en connaît quelques-unes. Je vais citer par exemple le cas de la Guadeloupe, où on a utilisé d'une manière absolument abusive, il y a, je ne sais plus combien, 10-15 ans, du chlordécone, qui est un pesticide organochloré, parce qu'on n'avait pas d'autre solution pour lutter contre le charançon qui bouffait les bananiers, et, sauf que les utilisations n'ont pas été du tout raisonnées, et qu'en plus, on a indemnisé les agriculteurs en fonction du tonnage de pesticides utilisés. Notez qu'on en a stocké un peu partout, c'est un pesticide qui n'est absolument pas biodégradable. Certains chimistes pensent qu'il faut plusieurs milliers d'années avant qu'il se dégrade de moitié dans les sols. Donc là, c'est une bombe à retardement. Et effectivement, ça commence à sortir dans les eaux, ça commence à sortir dans les cultures. Et on en trouve partout. On ne sait même pas trop comment le traiter dans les eaux, en dehors du charbon actif qu'il faut lui-même incinérer dans des incinérateurs spéciaux, parce que ce produit, quand on le crame, il fait des dioxines. Alors, autant vous dire qu'on a tout gagné. En France, je ne pense pas qu'on ait des bombes à retardement de ce type-là. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas, parce que d'une part, on utilise d'une manière de plus en plus raisonnable les pesticides, ça coûte cher aussi. Et d'autre part, on utilise des pesticides qui sont quand même biodégradables, qui sont dégradables et qui se dégradent assez facilement dans la nature. Donc je ne pense pas qu'il y ait des stocks, comme il y a pu en avoir à une époque avec des pesticides chlorés. Les polynitrates, c'est la même chose. Les nitrates sont quand même assimilés en partie par la plante, bien sûr, par le sol. Vous avez même dans certains aquifères des dénitrifications qui se produisent naturellement. Mais là encore, c'est une question de dosage aussi, quoi. Il faut. On a vu la concentration. Je me tourne peut-être vers Monsieur Abdekodo pour savoir s'il a des chiffres là-dessus. Mais on a vu des concentrations dans les aquifères, dans les nappes, ces 20 dernières années, je vais dire, qui augmentaient à peu près de 1 à 2 mg par litre et par an. Je crois qu'aujourd'hui, ça se stabilise. On ne diminue pas encore la concentration, mais on tend vers une augmentation, enfin vers une stabilisation des concentrations en nitrate. Je ne crois pas que ce soit une bombe à retardement. Et peut-être que je me fais des illusions.
Oui, on focalise beaucoup sur les nitrates. Et pourtant, j'avais la notion que les nitrates en eux-mêmes n'étaient pas tellement méchants pour l'homme adulte, mais qu'ils risquaient de devenir méchants, surtout chez l'enfant, parce qu'à l'intérieur de l'intestin de l'enfant, sous l'effet de bactéries, ils se transforment en nitrites. Et que ce sont les nitrites qui sont mauvais pour la santé, parce que ce sont eux qui transforment l'hémoglobine en méthémoglobine. Et la méthémoglobine ne transporte pas l'oxygène. Autrement dit, ça met les enfants en hypoxie, en manque d'oxygène, et avec toutes les maladies qui en résultent. Oui. Tout ceci pour dire que, autant chez les enfants, c'est un risque assez considérable, mais que globalement, ce n'est qu'une partie de la population, et qu'il ne faut peut-être pas focaliser d'une façon majeure les nitrates. Les autres substances sont certainement largement plus méchantes pour l'homme.
Vous avez entièrement raison, je ne peux aller que dans votre sens. Sans ouvrir un débat sur la toxicité ou pas des nitrates. Mais c'est vrai, je ne vais pas redire ce que vous l'avez dit vous-même. Sur les nitrates, la norme de 50 mg par litre, est dictée aussi par des considérations écologiques quand même. Hein, on ne voulait pas non plus laisser la porte ouverte à des épandages de nitrates trop importants qui permettent, pourquoi pas, d'aller à 100, 200 mg par litre dans les eaux. Donc on a fait deux choses. On a d'abord réglementé à 50 mg par litre dans les eaux potables. En plus, on a interdit de traiter en eau de surface. Quand il s'agit d'une eau souterraine, on admet jusqu'à 100 mg par litre de nitrate pour pomper cette eau pour en faire une eau potable, à condition qu'on la traite pour arriver à 50 ou qu'on la mélange avec une eau qui n'en a pas. Par contre, sur une eau de surface, ce n'est pas toléré. Ça veut dire qu'on a fait une double réglementation là, qui impose quelque part au pouvoir public de protéger la ressource pour éviter la croissance exponentielle des nitrates dans les eaux qu'on avait dans les années 70-80. Je me souviens encore de débats à l'époque, dans l'amphithéâtre du Crédit Agricole d'ailleurs, c'était un peu chaud, que Marcel Doré avait organisé, je faisais référence à lui tout à l'heure, c'était à peu près ces années-là. Donc la réglementation sur les nitrates est plus basée sur une décision politique de protection de la ressource que sur un effet toxique, vous avez raison de souligner. D'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir un cas recensé au monde d'un bébé qui a été atteint de méthémoglobinémie suspecté par ce problème de nitrate dans les eaux. Et c'est vrai que d'autres substances, pour revenir à l'arsenic, d'autres substances, mais il n'y a pas que l'arsenic, le plomb, le mercure, pour en citer d'autres, cadmium, par exemple, hein, les solvants chlorés, les pesticides organochlorés dont on parlait tout à l'heure, sont bien plus dangereuses que les nitrates.
Merci. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait de changer les canalisations en plomb. Est-ce que vous pourriez expliquer le phénomène de pollution de l'eau par ces canalisations, s'il vous plaît ?
Oui, alors, on a une norme qui est établie sur le plomb qui a été longtemps de l'ordre de 50 microgrammes par litre. Et on s'est aperçu par les calculs avec le bol alimentaire, etc., que c'était encore trop risqué sur les problèmes de saturnisme et qu'il fallait descendre cette concentration à 10 microgrammes par litre. Au robinet du consommateur. Hein, parce que c'est souvent dans la canalisation, vous avez bien fait de le rappeler, qu'on redissout en fait. on redissout le plomb dans l'eau. Alors, par des systèmes un petit peu complexes, de complexes justement d'hydroxocarbonate de plomb, mais on le redissout au contact de la canalisation. Et donc, on s'est aperçu que si on voulait vraiment passer au-dessous de 10 microgrammes par litre de plomb, il fallait éliminer toutes les bouts de canalisation ou de raccords en plomb. Et on a estimé qu'au niveau européen, j'ai plus le chiffre en tête, Bertrand l'a peut-être, que les coûts étaient tellement exorbitants qu'il fallait passer par une étape intermédiaire qui était à 25 microgrammes par litre. Je crois que c'était jusqu'en 2013 d'ailleurs, ou avant, je sais plus, 2008 je crois. Et puis maintenant, on est à 10 microgrammes par litre. Mais je ne sais pas trop quoi répondre à votre question. Oui, il y a un danger avec le plomb. Oui, c'est un polluant qu'il faut ne pas avoir dans l'eau potable. Et la seule solution pour l'éliminer au-dessous de 10 microgrammes par litre, c'est d'éliminer toutes les canalisations en plomb pour éviter... Quand une eau passe relativement vite dans cette canalisation, il n'y a pas trop de danger. Le danger, c'est la stagnation. Donc d'ailleurs, le conseil qu'on donnait à l'époque, quand on avait des... dans cette période intermédiaire, c'est de dire, ben voilà, purgez votre canalisation avant de... Si vous pensez qu'il y a du plomb... ou s'il y a un risque d'avoir du plomb, purgez votre canalisation avant de prélever.
Il y avait une autre question là-bas. Puis pendant que le micro dans le fond.
Non, j'aimerais revenir simplement sur une question enfin, qu'avait déjà abordée une dame un peu devant. C'était de, quelle est la c'est de faire une comparaison entre l'eau en bouteille et l'eau qui sort du robinet. L'eau en bouteille vaut peut-être un peu plus de 100 fois plus que l'eau de robinet. Est-ce qu'elle est 100 fois meilleure? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'eau du robinet elle est meilleure que l'eau en bouteille. Est-ce qu'on peut aller jusque-là aujourd'hui?
Non, parce que l'eau du robinet a un goût que l'eau en bouteille n'a pas. Donc, tout dépend ce que tu entends, excuse-moi de te tutoyer, mais on se connaît, meilleur. En termes de qualité microbiologique, qualité chimique, c'est à peu près équivalent. En termes de goût, par contre, l'eau du robinet est moins bonne parce qu'on est tenu, d'une manière obligatoire, même s'il y a quelques dérogations, d'apporter de l'eau au robinet du consommateur avec encore un résiduel de chlore. On ne peut pas distribuer de l'eau sans chlore. D'ailleurs, le distributeur d'eau, il y en a un dans la salle, il pourrait le dire, il fait en sorte de ne pas mettre trop de chlore pour pas que ça crée trop de mauvais goût, bah, le goût du chlore déjà, mais des goûts aussi occasionnés par les réactions du chlore sur les traces de matière organique qu'on a dans l'eau, et même dans une eau minérale, on a des traces de matière organique. Mais, donc il ne veut pas en mettre trop, mais il lui en faut un minimum. En plus, on est parfois en période de vigipirate, et quand on est en période de vigipirate, je regarde M. Abdekodo, je crois que c'est 0,3 mg par litre minimum. On nous impose de laisser 0,3 mg par litre de chlore. Ça commence à... c'est pas eau de piscine, mais ça commence à sentir quand même. Donc la différence considérable que les gens sentent bien entre l'eau embouteillée et l'eau du robinet, c'est le goût. Donc, il y a des solutions qui consistent à dire ben, l'eau du robinet, on peut lui faire son petit traitement, nous. On peut, par exemple, acheter une carafe X ou Y, je ne donne pas de marque. Hein, on filtre tout compte fait sur un charbon actif. Et puis, on met au frais tout de suite pour éviter que ça contamine derrière. On a une eau qui est vraiment au goût de même qualité que l'eau embouteillée. Sauf qu'il ne faut pas oublier quand même de temps en temps de changer sa cartouche de charbon actif. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des bactéries qui se développent sur le charbon actif, qui est quand même un nid à bactéries... Mais si on fait attention à tout ça, si on est sérieux, oui, ça peut être bon. Mais la différence, je réponds vraiment à ta question là, que les gens trouvent et qu'on trouve nous, hein, quand on a, c'est une différence de goût. En termes de qualité, il n'y a pas beaucoup de différence de qualité. Je dirais même qu'il y a peut-être certaines eaux minérales, certaines eaux embouteillées, fait la différence entre minérales et embouteillées, qui sont peut-être parfois un petit peu limites en nitrate.
Merci. J'ai deux questions. La première qui est assez rapide.
Moi, je me méfie parce que c'est un collègue, alors chimiste en plus.
Non.
Tu as parlé de l'aluminium.
Oui.
Quelle est la norme pour l'aluminium?
200 microgrammes par litre. 200 microgrammes par litre.
200 microgrammes
maximum.
Et y a-t-il une corrélation avec la maladie d'Alzheimer?
Ah, voilà un grand débat. Certains disent que oui, parce que on retrouverait dans, alors là, bon, c'est vraiment pas ma compétence en matière médicale, mais des concentrations en aluminium élevées dans le cerveau des décédés, bien évidemment, par la maladie d'Alzheimer. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Après, quelle est la part? Moi, j'ai quand même un doute sur l'aluminium. J'ai quand même un doute. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des publications qui montrent qu'il y a une relation, même s'il y en a pas beaucoup, et d'autres qui montrent qu'il n'y a pas de relation, j'ai quand même un doute. Et on pourrait supprimer les sels d'aluminium dans le traitement des eaux en les remplaçant, par exemple, par des sels de fer. Ce que fait pas mal, ce que font pas mal de compagnies d'eau aujourd'hui. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Le fer, ça se voit, c'est ça qui est un peu plus gênant. Si on a une fuite en fer, au goût, on le sent tout de suite. Mais le fer, ça ne présente pas de danger. Donc ma réponse, c'est encore une réponse un peu normand. Moi, j'ai un doute sur l'aluminium, mais il n'a pas été démontré réellement qu'il y avait une relation. D'ailleurs, il y a encore peut-être 90% des eaux, de traitement des eaux de rivière dans le monde qui utilisent le sulfate d'aluminium comme coagulant.
Alors, la deuxième est plus générale. Ça concerne la carte que tu as montrée du Bangladesh où il y a un gros problème avec l'arsenic. Comment tente-t-il de résoudre ce problème?
Alors, on a, pour éliminer l'arsenic, il faut absolument le précipiter et l'absorber sur un hydroxyde ferrique. Et puis le transformer d'abord en arsenic 5, l'oxyde d'arsenic 3 en arsenic 5. Excusez-moi, là, je suis un petit peu technique là. Et ensuite, l'absorber ou le complexer sur un hydroxyde ferrique pour le faire décanter ou pour le filtrer. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf des solutions osmose inverse, bien évidemment, qui éliminent tout. Il n'y a pas d'autre solution. Ce que je disais, c'est qu'on préconise actuellement, enfin pas nous, mais des collègues suisses de l'EAWAG préconisent des méthodes maison, ce qui s'appelle les homemade treatment, qui consistent à essayer de faire un traitement dans une carafe comme ça, ou une carafe plus importante, bien sûr, avec les moyens du bord. Et le moyen du bord habituel, c'est le clou, la pièce de ferraille, on va dire, et l'acide citrique qui est indispensable parce que le complexe, par la formation de complexe fer-citrate en présence de photons, produit des radicaux hydroxyles qui oxydent l'arsenic 3 en arsenic 5, désolé. Et le fer oxydé également se précipite en hydroxyde ferrique qui absorbe l'arsenic 5 et tout ça précipite. On n'arrive pas à 10 microgrammes par litre avec ces techniques-là, mais on peut descendre au-dessous de 50 microgrammes par litre, parce que les teneurs en arsenic au Bangladesh sont bien supérieures à 10 microgrammes par litre. C'est plutôt du 100 microgrammes par litre, voire plus, qu'il y a dans les eaux, et naturellement.
Oui, je voudrais intervenir sur deux points. D'abord, les eaux embouteillées et l'eau du robinet. Je crois que le professeur Legube l'a bien souligné. Hein. On a la chance quand même d'avoir en France des normes très drastiques sur la distribution de l'eau, sur l'eau potable. Il faut dire quand même que l'eau potable est une des denrées les plus contrôlées de France. Hein. Et donc, avec des normes qui sont très, très sévères, on voit que même quand on trouve les doses admissibles ou les doses létales, on les redivise par des coefficients de sécurité. Le coefficient de sécurité de 1000 ou de 20 000, c'est un peu le risque que je prends d'avoir un accident en prenant le train. Hein? Et donc, ça veut dire que l'eau est un produit qui a toutes les garanties des services sanitaires. Après,
mais quand le train a un accident, il y a beaucoup de morts. Quand même.
Voilà. Alors, il est vrai que en France, on a ce problème de liée au goût du chlore. Il y a eu des travaux qu'on a fait dans le temps pour voir si on pouvait produire de l'eau sans chlore ou sans goût de chlore. Bon. Mais ce qui est important, c'est que moi, je crois que c'est un problème culturel. C'est un problème culturel. La réalité est là. Mais pour avoir vécu un peu au Canada, il est évident que l'Américain du Nord ne boit pas normalement l'eau s'il ne sent pas l'odeur du chlore.
Exact, parce que l'Américain du Nord, en général, pas seulement.
Pardon ? L'Américain du Nord. Hein.
Oui, oui.
Voilà. L'Américain du Nord, hein, au Canada, aux États-Unis. Hein, quand j'étais au Canada, aux États-Unis, je commençais à perdre des cheveux hein, parce que l'eau était très, très chlorée. Et c'est une garantie pour eux, hein, selon eux, de désinfection, enfin d'efficacité de la désinfection, surtout qu'ils ont eu des problèmes avec des parasites ou des kystes comme les Giardia et les Cryptosporidis dont le professeur Legube a parlé. Donc je crois que c'est quand même important, il faut faire confiance quand même à l'eau du robinet. Je suis producteur d'eau, donc je pense quand même que nos...
C'est le directeur du CIVER, hein, alors.
Nos collectivités investissent beaucoup pour garantir l'eau. Et moi, je sais que nous, par exemple, pour partager une expérience, l'année dernière, on a eu hein, des épisodes de turbidité hein, qui dépassaient un tout petit peu la norme. Manque de chance pour nous. C'était entre Noël et Nouvel An. Et toutes nos équipes ont été mobilisées. Il a fallu doubler le nombre d'astreintes. Hein. Il y a eu 36 personnes d'astreintes au lieu de 18 habituellement. Hein, pendant toute la période des fêtes. Et les communes, on avait une dizaine de communes d'incriminés, et dans ces communes-là, on a distribué pendant toute la période des fêtes de l'eau embouteillée. C'est un peu la sécurité poussée à l'extrême, mais il est évident qu'en France, on n'aime prendre aucun risque par rapport à ces questions-là. Alors pour le plomb, c'est simplement pour dire qu'on remplace les canalisations de plomb. Hein, on a un taux de remplacement qui est très important. Là où aujourd'hui, nous, Civer, on a un programme assez ambitieux, mais on n'est pas encore au bout de nos peines, c'est du côté de Châtellerault. Ah oui. On utilise le professeur Legube l'a dit, le chlorure ferrique est un bon coagulant. La question, c'est des problèmes de couleur. Alors, effectivement, dès qu'il y a une petite fuite en chlorure ferrique, ça se voit tout de suite et les gens s'en plaignent, alors que ça ne présente pas de danger réel pour la santé. Et pas, du coup, il y a beaucoup de stations où on utilise... Nous, au CIVER, il n'y a qu'à Châtellerault hein, où on a de l'eau de surface, puisque par ailleurs, on n'a que de l'eau souterraine, donc on n'a pas cette problématique-là. Mais effectivement, à Châtellerault, on utilise de façon alternative le chlorure ferrique ou le sulfate d'aluminium hein, en essayant d'être très inférieur aux normes admissibles.
C'est peut-être une dernière question. Monsieur qui lève le doigt depuis je ne sais pas combien de temps, là. Puis après on arrête peut-être.
Justement, pour rebondir un peu sur les sels d'aluminium, la nouvelle station de Belgeois, est-ce qu'elle est encore traitée aux sels d'aluminium? Et à la sortie, est-ce qu'il y a des traces d'arsenic?
Pardon? Il y a des traces d'arsenic en sortie de... Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a des traces d'arsenic dans...
Non. Je crois pas. Arsenic dans la région, non. On a problème de fluor. Non. Fluor. J'ai jamais entendu parler de ce problème-là.
Bien, je reprends le micro pour interrompre le débat, malheureusement, mais c'est bien, on a beaucoup débattu depuis une demi-heure. Merci encore à Bernard, je vous remercie aussi d'être venu. Je vous rappelle que nous ne sommes qu'en début de semaine, que vous avez des ateliers qui sont en droite ligne aussi avec la possibilité de goûter des eaux. Il y a un bar à eau qui est à Mendès France et je crois que l'atelier bar à eau sera à Beaulieu. Autrement, vous avez aussi l'école d'ADN qui vous permettra de voir des petites bêtes dans l'eau, mais cette fois-ci des témoins de qualité de l'eau. C'est l'observation de diatomées, par exemple, dans certaines eaux dans le Clair. Voilà, et puis je vous invite aussi à venir à l'inauguration de la Fête de la Science demain soir à 19h. Au lancement de l'actualité, le rédacteur en chef Jean-Luc Tardios est là, qui porte sur le Forum de l'eau en partie. Il y a bien d'autres articles. Et notamment, il y a un entretien avec Bernard Legube qui figure dans ce numéro qui vient de sortir et qui est sur le thème qui a été traité ce soir. Bonne fin de soirée et à demain si vous le souhaitez.
Merci.